Tribu, Pierre-Yves Moret.
Bonjour, bienvenue dans Tribu. Vous êtes-vous déjà demandé dans quelle mesure le métier que vous avez choisi dépend de votre genre, de votre sexe? On le sait, pour bon nombre de garçons et de filles, de jeunes hommes et de jeunes femmes, le choix d'un métier futur est largement déterminé par son propre genre, le milieu dans lequel on a grandi aussi et toutes les idées qui vont avec. Il existe depuis plusieurs années des initiatives pour contrer le courant de cette logique, à l'exemple des journées Oser tous les métiers ou Futur en tout genre, où les enfants peuvent accompagner un adulte du sexe opposé au travail. On peut toutefois s'interroger plus loin sur les mécanismes et les enjeux de ces logiques, et c'est ce que nous allons faire en votre compagnie. Ce matin, bonjour, Lavinia Giannettoni.
Bonjour.
Lavinia Giannettoni, vous êtes maître d'enseignement et de recherche à l'Institut des sciences sociales de l'Université de Lausanne, plus précisément au Centre de recherche sur les parcours de vie et les inégalités. Et vous avez participé notamment au PNR 60, le Programme national de recherche Égalité entre hommes et femmes, qui s'était terminé, je crois, en 2013, sauf erreur.
Oui.
Et vous aviez collaboré à un projet sur les aspirations et orientations professionnelles des filles et garçons en fin de scolarité obligatoire. Donc vous vous intéressez spécifiquement justement à ces questions de savoir comment, quand on est une jeune fille, un jeune homme, on se projette dans une profession selon son propre genre, son propre sexe. En quoi est-ce que ces questions sont des questions de société?
Alors, ce sont des questions de société, bien sûr, dans la mesure où le fait de s'orienter, d'aspirer à des métiers plutôt masculins ou féminins n'est pas du tout anodin. On sait que le marché du travail est ségrégué en fonction du sexe, donc on constate qu'il y a un bon nombre de métiers qui sont très majoritairement exercés par les hommes, les métiers plutôt techniques, mécaniciens par exemple, ou dans l'ingénierie. Et de l'autre côté, il y a des métiers qui sont majoritairement exercés par les femmes, les métiers du soin par exemple. Et ces métiers sont hiérarchisés, c'est-à-dire que les métiers masculins, exercés majoritairement par les hommes, sont mieux rémunérés que les métiers féminins. Donc on est là au cœur, en fait, des inégalités entre les sexes qu'on constate sur le marché du travail. Donc le fait que des jeunes s'orientent vers des métiers typiques du point de vue du genre, en fait, participe à la production, à la reproduction des inégalités des sexes que l'on constate sur le marché du travail, qui aboutissent donc à des inégalités salariales, à des inégalités dans les possibilités de faire carrière, etc.
Alors c'est ça ce qui est intéressant, c'est que c'est pas simplement une question d'égalité sur un plan symbolique, la femme devrait avoir les mêmes droits que les hommes, pour le dire très simplement, mais c'est vraiment des questions aussi d'économie, de société, c'est-à-dire que les femmes, si on lit aussi les articles que vous avez pu écrire, qu'on a mis en lien sur notre page internet sur ces questions-là, il y a des femmes qui choisissent des métiers ou des formations notamment plutôt typées masculines a priori, mais qui n'arrivent pas à faire carrière, c'est-à-dire que c'est des formations qui ont été payées mais qui ne produisent plus rien derrière, il y a ce risque-là.
Oui, il y a en tout cas le risque pour les filles qui se lancent dans des formations atypiques d'arrêt prématuré. Donc il y a des collègues qui ont travaillé sur ces questions et qui ont montré que les filles notamment vivent des discriminations sexistes lorsqu'elles sont en formation dans des métiers atypiques, beaucoup plus que ne le vivent les garçons dans des métiers atypiques. Donc c'est vrai qu'il ne suffit pas, disons, d'aspirer à des métiers atypiques pour que cela aboutisse en termes d'insertion professionnelle derrière. Ça c'est sûr.
Le coût le plus important, le plus dommageable, si on devait prendre ce genre de vocabulaire, c'est quoi? C'est précisément le fait qu'on investit de l'argent qui ne rapporte pas derrière?
Non, je pense que le problème, finalement, c'est que on voit que les aspirations et les orientations professionnelles sont vraiment ancrées dans des logiques de genre et que c'est très difficile pour les filles d'aller au-delà de ça. Donc, il y a pas mal de filles quand même qui aspirent à des métiers atypiques, mais ça ne veut pas dire qu'on les retrouve dans des administrations professionnelles atypiques en fin de parcours, qu'elles arrivent à rester dans ces formations. Et c'est vraiment problématique dans le sens où, effectivement, ça participe vraiment au maintien des rôles sexués dans lesquels, finalement, les femmes peuvent investir la sphère professionnelle. Aujourd'hui comme aujourd'hui, les femmes travaillent. Mais au bout d'un moment, dans leur parcours, elles se trouvent contraintes de la désinvestir, notamment à l'arrivée de l'enfant. On constate qu'il y a un désinvestissement des femmes qui, du coup, se trouvent freinées dans leur logique de carrière professionnelle en raison du fait, justement, qu'elles ont l'obligation, d'une certaine manière, de concilier la famille et le travail. Et ce qui est problématique, c'est qu'on voit effectivement que les jeunes filles, déjà à 13, 14, 15 ans, donc nous avons interrogé des jeunes filles filles en fin de scolarité obligatoire, elles anticipent déjà ces difficultés. C'est-à-dire qu'elles sont déjà...
Le fait de concilier vie professionnelle et vie familiale.
Exactement. Elles sont déjà conscientes du fait que, au bout d'un moment, elles seront probablement amenées à réduire leur temps de travail pour se consacrer à la famille si elles décident d'avoir des enfants. Ça, c'est quelque chose qui concerne beaucoup moins les garçons. Il y a quand même un certain pourcentage de garçons non négligeables qui dit à l'avenir, j'aimerais bien travailler à temps partiel pour me consacrer ensuite à la famille. Mais ce qu'on constate, c'est que chez les filles, dès lors qu'elles se disent, j'aimerais bien travailler à temps partiel pour me dédier à la famille, elles aspirent à des métiers très féminisés. C'est-à-dire des métiers, en fait, qui de facto facilitent ensuite le temps partiel. Donc, il y a une assez grande cohérence pour des jeunes filles de 13, 14, 15 ans entre le fait d'anticiper la conciliation et le choix du métier. Chez les garçons, cela est moins clair. C'est-à-dire qu'on peut trouver des garçons qui disent, oui, j'aimerais bien travailler à temps partiel, mais qui en même temps, à l'avenir, mais qui en même temps aimeraient bien devenir chef d'entreprise. Donc, on sait que ce sont des choix difficilement conciliables.
Quand on est responsable, cadre ou chef d'entreprise, c'est difficile d'avoir un temps partiel.
Exactement. Donc, ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui nous a aussi pas mal frappé dans notre recherche, c'est de constater cette conscience déjà qu'ont les jeunes filles des difficultés qu'elles voient probablement déjà sur le marché du travail ou dans leur quotidien, peut-être à la maison, etc.
Parce que pour le redire autrement, ce que venait nous expliquer Lavinia Gianettoni, quand on lit vos articles, vous le mettez aussi en évidence, c'est le fait que lorsqu'une fille, par exemple, se projette dans un métier typiquement masculin, donc là, elle envisage moins ou pratiquement, elle aura plus de difficultés à concilier vie professionnelle et vie familiale, donc elle travaillera un pourcentage plus élevé. Quelque part, ça renforce précisément ces stéréotypes de genre où un métier masculin demande à être occupé à 100% et c'est plus difficile de l'occuper lorsqu'on est une femme et qu'on désire s'occuper de la vie familiale.
Oui, je pense que là, effectivement, c'est un autre aspect qui est peut-être moins débattu. Mais c'est clair que tant qu'on remet pas en question l'idée qu'un travail masculin est un travail à 100% et que les hommes sont destinés à travailler à 100% pour être les pourvoyeurs de fonds de la famille, c'est difficile d'avancer en termes d'égalité. Parce qu'on peut pas juste prétendre que tout le monde travaille à 100%. Mmh. Enfin, on peut évidemment se dire que si quelqu'un souhaite travailler à 100%, il ou elle a le droit de travailler à 100%. Mais disons qu'on peut aussi imaginer des modèles de famille dans lesquels les pères qui le souhaitent puissent également obtenir des temps partiels pour assumer aussi la responsabilité de la sphère familiale. Actuellement, on sait que dans l'écrasante majorité des couples, ce sont les femmes qui ont la responsabilité de la gestion familiale, même si leur conjoint peut-être travaille à temps partiel à 80-90%. La responsabilité vraiment de la gestion familiale revient aux femmes. Et cela, évidemment, a des implications pour les possibilités de carrière des femmes. Donc, effectivement, le retour sur investissement qu'on disait avant par rapport au fait qu'elles ont été formées et puis que finalement, est-ce qu'elles peuvent rester dans le marché du travail. Mais d'autre côté, on peut s'imaginer que les hommes, il y en a d'ailleurs qui le souhaiteraient et qui peuvent pas forcément le faire parce qu'il y a des contraintes professionnelles trop fortes et que ça passe moins bien pour un homme de demander du temps partiel que pour une femme où ça irait un peu de soi. Ça paraît normal qu'une femme ait envie de se consacrer à l'éducation des enfants. Ça paraît moins normal qu'un père ait envie de le faire. Donc on est vraiment en plein stéréotype de genre.
Alors précisément, on va continuer d'en parler de ces stéréotypes de genre, mais avant peut-être qu'on parle de cet aspect de normalité qui est aussi peut-être discutable aussi dans la manière dont on s'y réfère ou dont on l'amène. Vous avez, vous, fait des études temporelles. Vous avez évoqué aussi le fait que les mentalités évoluent. Aujourd'hui, les femmes travaillent et c'est normal. Est-ce que vous avez comparé dans différentes études dans quelle mesure les garçons, peut-être, il y a 50 ans ou une centaine d'années, peut-être même, pouvaient se projeter dans l'éventualité d'une profession dite féminine, alors qu'aujourd'hui, il y a encore peut-être une faible proportion des garçons en âge de scolarité obligatoire qui s'y projettent, mais c'est déjà une amélioration?
Alors, ça, je peux pas vous répondre en termes d'études parce qu'on n'a pas de données.
On s'intéressait pas à ça il y a 50 ans.
Disons, ouais, en tout cas, moi, j'ai pas de questionnaire sur lequel travailler qui a été fait passer il y a 50 ans. On s'y intéressait moins, certainement. Je pense que ça fait depuis une quinzaine d'années, quinzaine d'années qu'on s'intéresse vraiment à ces questions. Donc, c'est difficile de répondre, mais a priori, effectivement, on constate une certaine évolution dans les représentations. Pour les pères, c'est peut-être plus normal aujourd'hui, de revendiquer une volonté aussi de s'investir dans la sphère familiale. D'ailleurs, dans nos données, on avait le plus qu'un tiers des garçons, le 37% des garçons, si je me souviens bien, qui disent « j'aimerais bien l'avenir travailler à temps partiel pour m'occuper de la famille ». Alors, est-ce que ce 37% dira la même chose en 10 ans? J'en suis pas certaine. Mais en tout cas, ça atteste d'une certaine évolution de la société. C'est-à-dire que c'est pas une honte en soi de dire pour un garçon « j'aimerais bien m'occuper de ma famille plus tard ». Donc, pas forcément travailler à 100%.
Mais j'ai lu dans un de vos articles, justement, celui qui s'appelle « Aspiration professionnelle des jeunes en Suisse, rôle sexué et conciliation travail-famille » qui est publié dans la revue Social Change in Switzerland, que précisément il y a plus de jeunes filles en âge de scolarité obligatoire que de garçons qui se projettent dans des professions typiquement de l'autre sexe. Par contre, une fois à l'âge adulte, vers 23 ans je crois, on trouve une proportion de garçons un peu plus élevée qui eux occupent ou se forment dans des professions dites féminines que de filles.
Oui.
Donc il y a une inversion un peu là.
Exactement. En tout cas, sur les données sur lesquelles on a travaillé avec ces jeunes qui ont été suivis durant une dizaine d'années, on voit effectivement qu'à 13, 14, 15 ans, enfin en l'occurrence ils avaient 15 ans, il y a plus de filles, nettement plus de filles qui aspirent à des métiers typiques, qui disent j'aimerais bien devenir avocat par exemple, que de garçons qui ont des aspirations professionnelles atypiques. Et les garçons sont très minoritaires à avoir des aspirations professionnelles atypiques, donc vers des métiers féminisés. Ce qui est montré aussi dans plein d'autres études internationales. Donc on voit, c'est quelque chose d'assez systématique, et ce qui est assez facile à expliquer, c'est-à-dire que, évidemment, les métiers masculins sont plus prestigieux, sont plus réputés. C'est plus facile pour une fille d'aspirer des métiers masculins que pour un garçon d'aspirer des métiers féminins, parce que ça paraît quelque chose de moins prestigieux.
Qui sont socialement moins reconnus.
Socialement moins reconnus, socialement considérés comme moins prestigieux. Par contre, c'était assez frappant effectivement de voir que ce assez grand pourcentage de filles qui a priori aspiraient à des métiers typiques se retrouvent plus du tout insérées dans des métiers typiques à 23 ans, donc au bout de 8 ans. On se retrouve par contre dans une situation dans laquelle pas mal de garçons qui a priori n'avaient pas du tout d'aspiration typique exercent de facto métiers typiques. Donc ça, il y a des chercheurs qui ont montré effectivement qu'il y a pas mal de réorientation chez les garçons, c'est-à-dire que suite à des échecs scolaires, il y a des garçons qui se réorientent vers des métiers plus féminisés. Mmh. Il faut dire aussi que pour les garçons, monter la hiérarchie dans ces métiers féminisés est relativement facile, dans le sens que c'est plus facile pour un garçon que pour une fille de faire carrière dans les métiers féminisés. Donc ça peut aussi effectivement d'un côté peut-être motiver les garçons à investir ces métiers, mais de l'autre côté, disons que dans une perspective d'égalité entre les sexes, c'est pas forcément la voie royale pour avancer, parce que si on comble une ségrégation verticale, on a des garçons qui rentrent dans les filières féminisées, mais ensuite ils occupent les postes de cadre et puis les femmes restent dans les postes subalternes, évidemment on n'a pas forcément beaucoup avancé.
On va continuer nous d'avancer dans ces questionnements, notamment sur les questions des égalités et inégalités dans les sexes et la manière de se projeter quand on est jeune homme ou jeune fille, ce sera juste après ces notes de musique.
Est-ce une fille ou un garçon? Un garçon aux cheveux longs? Ou une fille en pantalon? Toujours et partout, que ce soit dans la rue ou dans le métro. Est-ce une fille ou un garçon? Un garçon aux cheveux longs ou une fille en pantalon? Cheveux longs ou une fille en pantalon, c'est là la question. Mais quand on est jeune, que l'on a 20 ans, votre vie et la nôtre, c'est quand même différent. Est-ce une fille ou un garçon? Aux cheveux longs ou une fille en pantalon, c'est là la question. Mais la solution, c'est qu'à 20 ans on prend la vie en s'amusant. C'est qu'à 20 ans on prend la vie en s'amusant.
Fille ou garçon, c'est une chanson de Stone, une proposition de Nathalie Schauenberg.
Tribu sur la première.
Nous sommes avec vous ce matin, Lavinia Gianettoni, pour parler dans Tribu des questions des inégalités ou de la manière dont on s'oriente dans une carrière professionnelle ou qu'on s'y projette lorsqu'on est un jeune homme ou une jeune fille, c'est-à-dire dans les métiers de l'autre genre, de l'autre sexe. On a évoqué certains éléments, certains enjeux dans la première moitié de cette émission. J'aimerais peut-être différencier ce qui est de l'ordre des facteurs culturels ou des facteurs institutionnels dans ces mécanismes-là. Parce qu'au fond, on le lit aussi, le système de formation suisse fait que très tôt, il faut choisir une profession. Très tôt, on va devoir s'orienter un petit peu. Et précisément, ce système-là renforce peut-être les inégalités de genre ou la manière dont les genres se différencient dans les professions. Comment est-ce qu'il faut comprendre que ces facteurs institutionnels pèsent par rapport aux facteurs culturels? Est-ce que c'est d'abord le système qui joue, qui pèse fort dans ces questions-là, ou c'est d'abord la psychologie, la tête?
Alors, je ne pense pas qu'on puisse dire lequel joue plus que l'autre. Je pense que tout s'articule. C'est-à-dire, c'est un système vraiment complexe qui vient déterminer ce conformisme dans les aspirations et les orientations professionnelles. Donc, effectivement, c'est vrai, cette problématique-là est connue dans toute l'Europe, mais en Suisse, elle est particulièrement saillante, probablement parce que les choix des orientations ont lieu relativement tôt. Donc, à 13, 14, 15 ans, les enfants sont déjà amenés à choisir un métier. En tout cas, la majorité d'entre eux qui fera plutôt une formation de type CFC, formation professionnelle, et qui continue pas les études. Donc effectivement, ça arrive assez tôt. Et cela puise également dans ce que vous avez appelé le culturel, que moi j'appelais peut-être l'identitaire ou l'idéologique. Mmh. C'est-à-dire que les jeunes garçons et filles, à 13, 14, 15 ans, ont une identité de genre qui est en jeu, qui est particulièrement saillante à cet âge-là. Et c'est évident que c'est difficile de dire à des garçons, surtout, mais aussi à des filles, fais un métier atypique, comme si cela ne remettait pas en question les identités sexuées, alors qu'on sait qu'effectivement il y a un besoin de conformisme, de conformité aux normes de genre qui est très fort.
Donc on peut parler de l'estime de soi, c'est l'estime de soi qui est en jeu aussi chez le jeune homme ou la jeune fille.
Oui, surtout chez le jeune homme, parce qu'effectivement les transgressions des normes de genre sont particulièrement difficiles pour les garçons. Ça peut constituer une menace identitaire, de se dire, de se différencier de la masculinité, d'investir des métiers féminins, on peut être sujet à moquerie, etc. Donc, c'est pas forcément quelque chose de facile à faire pour un garçon. Donc là, effectivement, c'est tous ces facteurs plutôt idéologiques, identitaires, qui remontent à la socialisation primaire. Donc, c'est clair que dès l'enfance, on est socialisé en garçon, en fille, on intériorise une identité sexuée. Et dans les moments cruciaux, comme celui du choix du métier, ces identités sont saillantes, surtout à cet âge-là. Et donc, elles vont jouer un rôle dans le choix des professions.
On parle de socialisation primaire, donc pour préciser, précisément pour tout ce qui est l'apprentissage des premiers âges de la vie, dans la famille, et puis la socialisation secondaire qui est plutôt alors la socialisation qui se passe ensuite dans les formations à l'école et la formation professionnelle.
Exactement. Alors c'est clair qu'on peut pas juste prétendre que un changement de société ait lieu grâce à des interventions en termes de socialisation secondaire. Bien sûr, c'est important, c'est utile, sans aucun doute, mais sans remonter également à comment se construit, se définissent les jeunes en fonction notamment de leur sexe déjà avant, c'est pratiquement impossible de penser en réel changement. Il y a des travaux qui montrent déjà au niveau des crèches, on socialise différemment les jeunes garçons et les jeunes filles, on les force d'une certaine manière à choisir de jouer plutôt du côté des garçons, plutôt du côté des filles.
On fait un coin pour les garçons, un coin pour les filles.
Exactement, plutôt que de mélanger les jouets, et puis là ça serait, enfin pas dans toutes les crèches, mais le simple fait de mélanger les jouets permettrait peut-être aux enfants de ne pas devoir faire un choix, est-ce que je vais me comporter en garçon ou en fille ce matin. Donc déjà ça, ce sont toutes des petites choses qui pourraient être travaillées d'une manière systématique au niveau de l'école, au niveau de la famille aussi évidemment. Donc nous on a pu constater un lien très fort entre l'adhésion au rôle sexué dans la famille et les aspirations plus ou moins typiques ensuite des jeunes du point de vue du genre, c'est-à-dire que les jeunes qui ont grandi dans des familles dans lesquelles on met en avant et on valorise des rôles différenciés entre hommes et femmes, ben, vont avoir beaucoup moins d'aspirations typique. Donc ça, c'est quelque chose qui ressort très clairement. Cela dit, c'est clair, c'est beaucoup plus difficile d'intervenir au niveau de la famille qu'au niveau de l'école ou des institutions publiques. Donc je pense que c'est aussi un rôle de l'école d'essayer effectivement de réfléchir aux implications que ça a de laisser les enfants grandir en se conformant à des stéréotypes de genre, plutôt que de les questionner, peut-être de les inciter aussi à se poser des questions. Qui je suis, qu'est-ce que ça veut dire d'être un garçon, une fille, est-ce que ça veut forcément dire que ça c'est un rôle auquel je dois me conformer, enfin vraiment que ces débats-là aient lieu déjà peut-être au niveau de l'école, ça serait quelque chose de bien, parce que tout ce qui arrive en amont en termes de socialisation va ensuite évidemment rendre plus ou moins probable la possibilité d'une transgression, entre guillemets, des normes de genre lors du choix du métier.
Alors on a l'impression que c'est de plus en plus le cas, que les écoles justement thématisent de plus en plus ces questions. Il y a ces journées spéciales, Futur en tout genre ou Oser tous les métiers. Il y a aussi des campagnes d'affichage dans la sphère publique. Récemment encore, je voyais que la Haute École Arc de Santé faisait une campagne d'affichage dans les rues, une campagne qui s'appelait « Oublier les clichés », avec la photo d'une infirmière souriante, mais des années 50, hein, très typée. Et au fond, quand on allait sur le site internet oublierlesclichés.ch, on voyait qu'on essayait aussi de dépasser ces questions de genre typiquement féminin pour les métiers de la santé, les professions de la santé. Est-ce que ça a une efficacité? Est-ce qu'on arrive à l'évaluer, ça?
Alors c'est très difficile à évaluer. Malheureusement, ce qu'on constate, c'est que depuis 20 ans, ça n'a pas beaucoup changé. Il y a quelques métiers qui se féminisent, il y a quelques métiers qui se masculinisent, mais ce n'est pas quelque chose de systématique. Par exemple, le métier de médecin ou d'avocat est en train gentiment de féminiser. Ce qui est très bien, parce que ce qu'on peut s'y constater, c'est que dès que les métiers se transforment, le sexe des métiers change, on va dire, ou en tout cas devient moins saillant, cela favorise que des jeunes aspirent à ces métiers. Donc effectivement, ça a un effet. Donc,
ça vient justement des modèles identitaires, on retombe sur l'estime de soi. Là.
Exactement. Ça permet effectivement, par exemple, aux filles de se dire, mais finalement, je peux... ce métier-là est accessible pour moi. Et aux garçons, la même chose par rapport à des métiers plus féminisés qui se masculiniseraient un petit peu. En tout cas, qui se déféminiseraient. Donc effectivement, comme l'évolution est pas franchement radical, on peut se poser des questions. Moi, je pense quand même que ça a l'énorme mérite de poser le débat et que c'est fondamental parce qu'on se rend compte que c'est un problème de société. Par contre, je pense que des mesures ponctuelles comme la journée Oser tous les métiers n'est pas suffisante. Enfin, c'est clair, c'est pas suffisant.
Ça suffit pas de se rappeler une fois par année.
Exactement,
c'est ça.
Ça suffit pas de se rappeler une fois par année. Et puis, effectivement, je pense qu'il faut vraiment remonter plus en amont et se poser déjà des questions de qu'est-ce que ça veut dire l'identité de genre bien plus tôt finalement déjà à l'école primaire, déjà bien avant le moment où en gros les jeunes choisissent un métier. S'y intéresser à ce moment-là est très important, c'est très bien, ça pose le débat, ça peut certainement aussi d'ailleurs aider à sensibiliser les jeunes, mais s'il n'y a pas un travail un peu plus tôt, je pense que c'est beaucoup d'énergie qui finalement peut-être n'aboutit pas à ce qui est escompté comme résultat.
C'est presque même toute la question de la représentation du rôle des hommes et des femmes dans la société qui est en jeu, pas simplement dans les métiers, dans les formations professionnelles.
Exactement. Mm-hmm. En tout cas, tout ce qui touche à la conciliation ou à l'articulation plutôt entre travail et famille est en jeu. Parce que c'est clair que se projeter dans un métier, c'est aussi se projeter dans un avenir plus général. Et puis, s'il y a un avenir plus général où on ne fait que travailler, pour les femmes, ça veut dire je choisis de travailler plutôt que d'avoir une famille. Alors que pour les hommes, ça ne veut pas dire ça. On peut très bien, autant qu'homme, se projeter dans un avenir professionnel réussi, tout en s'imaginant qu'on a une famille, si on a une conjointe ensuite qui s'occupe des enfants. Donc, c'est là où il y a du travail, vraiment.
Lavinia Gianettoni, quand on lit vos études, on constate, et quand on entend parler de ce sujet dans les journaux, qu'au fond, la Suisse, elle ressemble aux autres pays européens sur ce plan-là, c'est-à-dire que la manière dont les métiers peuvent être typiquement genrés, masculins ou féminins, on retrouve ça dans d'autres contextes. Qu'est-ce qui est spécifique à la Suisse sur ces questions, sur la difficulté peut-être pour une jeune fille de se projeter dans un métier masculin et inversement pour un jeune homme de se projeter dans un métier féminin?
Ouais, donc en Suisse, il faut dire qu'on n'est pas très en avance pour tout ce qui est notamment infrastructure préscolaire et parascolaire. Alors, ça a une influence. C'est-à-dire que évidemment, si on se retrouve, on peut pas s'imaginer un avenir professionnel réussi en tant que fille, parce qu'on se dit que de toute façon, si on a des enfants, il va falloir diminuer le temps de travail, ou arrêter de travailler pour s'en occuper, parce qu'on peut pas les placer dans des crèches, parce que les crèches, soit elles existent pas, il y a des endroits où ça existe presque pas encore, ou alors elles sont des listes d'attente pas possibles, ou alors elles ont des prix totalement exorbitants, c'est un frein certain aux aspirations atypiques, je pense, des filles, parce que s'il n'y a pas des infrastructures qui correspondent aux besoins de conciliation, ça c'est un frein.
Les sommes qu'en Suisse, on a les crèches les plus chères du monde, hein, d'après certaines études.
Oui, c'est clair, c'est très très cher. Après, ça dépend aussi des régions. Mais il y a beaucoup de communes qui subventionnent pratiquement pas ou très 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 peu les crèches. Donc en gros, c'est les parents qui payent plein pot. Et c'est sûr que c'est pas évident. Parfois, on se demande... on peut parfois se demander à quoi ça sert d'avoir un double emploi si pratiquement le deuxième salaire partout dans la crèche.
Mais certains parents d'ailleurs font le choix de ne plus avoir un double emploi, mais la femme précisément, on a quelques exemples comme ça, la femme décide de rester à la maison de s'occuper des enfants parce qu'au fond, ça ne coûte pas plus cher.
Exactement, et c'est exactement là le problème. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas des infrastructures qui incitent les personnes à rester sur le marché du travail, ou qui leur permettent en tout cas de le faire, parce qu'après, je veux dire, si quelqu'un veut arrêter de travailler, je veux dire, je ne dis pas que c'est mauvais en soi. Mais le problème, c'est que ce n'est pas un réel choix personnel, c'est une contrainte. On est obligé d'arrêter de travailler parce que ce n'est pas rationnel de continuer à travailler dans certaines conditions.
Merci Lavinia Giannettoni pour vos éclairages sur ces questions des formations et la manière dont les jeunes hommes et jeunes filles peuvent se projeter dans des formations dites atypiques, donc généralement plutôt attribuées à l'autre sexe. Je rappelle que vous avez écrit plusieurs articles, on en a mis notamment un en ligne qui s'appelle « Aspiration professionnelle des jeunes en Suisse, rôle sexué et conciliation travail-famille », publié dans la revue Social Change in Switzerland. Donc on a mis ça sur notre page internet rts.ch/tribu. Je rappelle donc que vous êtes maître d'enseignement et de recherche à l'Institut des sciences sociales de l'Université de Lausanne au Centre de recherche sur les parcours de vie et les inégalités. Merci beaucoup Lavinia Giannettoni. Bonne journée à vous.
Merci à vous et bonne journée.
Au revoir. Et merci encore à Gilles Ozaman qui est en régie ce matin, ainsi qu'à Nathalie Schoenberg pour la programmation musicale. Vous avez rendez-vous avec les Dicodeurs pour l'heure sur la première avec Laurence Bizan du côté du Château de Loing.